Nous sommes le 7 décembre 2022, continent Europe, pays Belgique, capitale Bruxelles, commune XL, chez Lucille. Avant de laisser la parole à Lucille, mon amie, je voudrais un peu expliquer le contexte de notre rencontre. Lucille et moi, on s'est croisés il y a maintenant quelques années, au moins une dizaine d'années, parce qu'on étudiait dans la même école, le Conservatoire Royal de Mons. Je dis croisés parce que j'avais très très peur d'aller à sa rencontre. Elle avait un corps qui me renvoyait tout ce que je fuyais de moi-même. Et maintenant, je suis assez heureuse de dire que notre rencontre a débuté maintenant il y a... Oui, on peut compter en années et que ça continue. Lucille, bonjour, salut.
Salut, Conso.
Lucille, je vais te poser une grande question pour commencer, pour se détendre un peu. Oui. Est-ce que tu pourrais nous dire qui es-tu? Comment tu te définis aujourd'hui, en ce 7 décembre 2022 ?
Vaste question. Moi, je porte déjà plusieurs prénoms. Lucille, c'est mon prénom d'adopté, donc donné par ma famille d'adoption ou ma famille adoptive. Et Saada, c'est mon prénom d'origine, donné par ma mère biologique. Et Choqué, c'est mon nom de famille, et donc le nom de ma famille d'adoption. Donc je m'appelle Lucille Saada Choqué, et je me définis comme une personne noire, adoptée, féministe, antiraciste et artiviste. Je dis aussi parfois que je suis une performeuse décoloniale. Je crois que les termes ils sont assez fluctuants parce que je suis un être vivant et que selon ce que je rencontre comme problématique, bah oui, ma définition change en fait. Et puis aussi, c'est intéressant de dire comment je me définis moi. Est-ce que c'est les autres qui me définissent? Enfin, voilà. Dans quel contexte en fait je dis ça? Est-ce que c'est dans un contexte professionnel? Est-ce que c'est dans un contexte amical, familial? Parce que tu pourrais dire, bah, j'ai été un enfant. J'ai été un enfant abandonné, j'ai été un enfant, l'enfant accueilli par mes parents adoptifs. Et même, je pourrais dire, je suis une fille, ou je suis une femme, ou je suis une personne afro-péenne, afro-descendante. Je suis une sœur, je suis une amie, je suis une tante, une nièce, une marraine. Donc je crois que ça dépend vraiment la définition du rapport de la connexion avec la personne avec laquelle tu te trouves quoi. Enfin, dans le présent je crois qu'en ce moment j'essaie vraiment de faire confiance à ok, quelle est la relation qui existe, et toi et moi nous sommes à la fois des amis, à la fois des sœurs de lutte, des sœurs parce qu'on peut se reconnaître dans, je pense, à la fois dans le parcours d'adopter, même si l'expérience n'est pas la même, mais je pense qu'on a fait face à... ou plutôt aujourd'hui, on fait face, dans le temps présent, à des traumas, notamment d'abandon, et qu'on a en partage, quoi. C'est une expérience commune. Et de même, de fait, enfin, de la même façon que le fait colonial, on le partage aussi, le trauma colonial. Être des femmes noires, toutes les deux, en Europe, dans le Nord global, en Occident, avoir été déplacées, ne pas avoir choisi à un moment donné. Et donc, on a énormément de points communs, mais bien sûr, là, chacune traite son histoire avec son propre regard, sa propre subjectivité. Aussi, je crois que c'est important de dire qu'on vit dans ce présent-là. Nous avons chacune des regards situés parce que définis par là où nous nous inscrivons, quoi. Donc dans un contexte géopolitique précis. Aussi aujourd'hui, quoi. Dans qu'est-ce que c'est que, dès le début, tu as parlé du corps. Mon corps te renvoyait à ton propre corps que tu ne voulais pas voir, que tu ne voulais pas regarder. J'ai eu la même expérience, assez similaire, à la même période, finalement. Et donc, aujourd'hui, je pense que je dirais, je suis aussi un corps noir dans une société majoritairement blanche. Un corps noir qui est souvent stigmatisé, stéréotypé, et pas seulement dans nos métiers artistiques, mais aussi dans des relations telles que avec un ou une propriétaire, dans la recherche d'emploi, face à, je sais pas moi, à l'ONEM. Enfin, voilà, ce corps noir, il raconte quelque chose, quoi. Donc, je pourrais dire, voilà, oui aussi, moi, je porte un corps noir. Et puis, en plus, noir, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'on est sur la couleur? Est-ce qu'on est sur la condition noire? Donc là, on est beaucoup plus sur un regard politique, quoi, des rapports de domination, quoi.
C'est pour ça que c'était pour moi assez important de dire qu'on est ici en Europe, qu'on est des femmes qui vivent en Europe, en Belgique.
Oui.
Et ça, c'était assez important. Et du fait qu'on a ces corps-là qui ne sont pas identifiés comme appartenant à ce continent, à ce pays. Quand je disais corps, parce que sans rien de savoir de ton histoire, il y avait quelque chose avec ton corps qui me renvoyait qu'on avait quelque chose en commun. Et ce quelque chose en commun, c'était ce corps. Et que du coup, ce discours que tu as aujourd'hui et le fait que je te rencontre aussi aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu tout un processus de reconnaissance et de reconnaissance avec soi et que du coup, nommer et accepter. Accepter pour pouvoir se regarder et pour pouvoir avoir un recul et se définir en tant que... enfin, autre qu'avec le regard de l'autre et du jeu et du mensonge que j'ai entretenu, par exemple, moi, jusqu'à ce que je décide de me regarder dans un miroir et de dire, ben, tu es ça, ici, en Europe, quoi.
Oui, et ça me fait penser à, aussi, je crois que je dirais, je me sens bruxelloise, tu vois. Parce que, aussi, Bruxelles, c'est une ville que j'ai choisie. Je pars du principe que l'adoption, c'est de la migration forcée, et qu'on ne m'a pas demandé mon avis pour me déplacer. Et donc, je n'ai pas choisi d'aller en Europe, je n'ai pas choisi d'aller en France, parce que c'est le pays dans lequel j'ai été adoptée, qui en plus était le pays de l'oppresseur à Djibouti. Donc, je n'ai pas choisi d'aller en France, et puis, pour m'émanciper, pour me réaliser, j'ai choisi de venir en Belgique, tu vois. J'avais besoin de m'extraire, en fait, de... pas seulement de ma famille adoptive, mais de ce que peut représenter la France, en fait, dans cette histoire coloniale. Même si, évidemment, j'ai choisi un pays qui porte une autre histoire coloniale, mais c'est pas ça que j'étais venue chercher au début, quoi. C'était c'était quitter, en fait, quitter la France.
Donc l'objet qui nous réunit aujourd'hui, c'est notre rapport à notre pays d'origine. Tu sais que toute cette préparation que je suis en train de faire pour mon retour, qui est prévu dans quelques mois, pour moi, c'est de rencontrer... la préparation se place dans la rencontre d'autres adoptés qui ont soit vécu déjà un retour dans leur pays d'origine, soit c'est pas possible, ou voilà. Et du coup, avec toi, j'avais envie d'explorer en fait cet endroit de est-ce qu'on connaît ou pas notre pays d'origine. Qu'est-ce que tu peux me dire de ton pays d'origine? Est-ce que tu le connais? Est-ce que tu l'as toujours connu? Connu dans le sens de... Tu sais que tu viens de là, que tu as été adoptée de là.
Ça a toujours été très abstrait pour moi, ce pays natal. Je savais que c'était loin, en fait, c'était vraiment un nom, des lettres, tu vois, sur des papiers, des documents officiels. C'était loin, loin de la France. Et j'ai beaucoup regardé ce pays, je pense, dans une forme d'exotisme, quoi. Vraiment, j'avais vraiment ce regard blanc. Exotisme, misérabilisme, un regard vraiment critique sur l'Afrique, mais... ouais, dans le regard du colon, en fait. Et donc, quelque part, quand j'étais enfant, je crois que j'étais fière de ne pas être là-bas.
Déjà, pour situer, tu as été adoptée à quel âge?
Oui, j'avais à peine 2 mois. Et donc, oui, voilà, je suis née à Djibouti, mais j'ai des origines éthiopiennes. Et donc, il y a aussi... Tu vois, c'est pas clair, quoi. Il y a vraiment ce truc de... En fait, il y a deux endroits. Il y a deux endroits à rencontrer. Et parce que dans le procès verbal d'abandon, la déclaration qui a été faite par ma mère biologique est qu'elle est ressortissante éthiopienne et qu'elle a rencontré un compatriote éthiopien et que c'est avec cette personne-là. Alors, je laisse... Tu vois, je n'arrive même pas à dire les mots parce que je ne sais pas si je dois croire ce qui... figure sur cette déclaration d'abandon. Et ça, c'est terrible parce qu'en fait, je ne sais pas si c'est une légende, si on l'a forcé à déclarer une histoire, en fait. Est-ce que cette histoire est vraie? Est-ce qu'il s'agissait d'une histoire d'amour? Est-ce qu'il s'agissait, comme l'a gentiment fait remarquer une infirmière? Donc, évidemment, je vais te parler du premier retour, du premier voyage. Quand je suis retournée en 2017 à Djibouti, je suis donc allée à l'orphelinat dans lequel j'ai été déposée, qui aujourd'hui, en 2017, est devenue une crèche. Et il se trouve que la personne, une des sœurs, parce que tu sais, ce sont des missionnaires, des sœurs cathos, en général, qui, dans les années 80, occupaient les orphelinats et s'occupaient des enfants, il se trouve que cette sœur, elle était encore vivante, et donc j'ai fait le lien, et je me suis dit, ah ok, c'est une personne qui m'a connue en 1986, et elle m'a soignée, elle était infirmière, et quand je suis arrivée sur les lieux 30 ans plus tard, elle m'a clairement dit, oui mais tu sais, ta mère, on sait pas, ça se trouve, elle s'est fait violer, ça se trouve... elle t'a abandonnée, puis après elle est partie suivre un Canadien, parce qu'il y avait beaucoup d'Éthiopiennes qui faisaient ça. Enfin, en fait, c'était d'une violence.
C'est sûr.
Et donc, très loin de la charité chrétienne. En tout cas, d'un bien-être qu'on peut imaginer. Et tout ça pour dire que je ne sais pas si ce qui figure sur ce procès d'abandon, procès verbal, est vrai. Et donc, tout à l'heure, j'allais dire, ah oui, mais donc, elle a eu un enfant avec... Tu vois, en fait, c'est très dur pour moi de nommer de qui on parle. Enfin, ça n'est pas ma mère, en fait. Je ne peux pas lui donner ce nom-là. Donc, je dis une mère biologique, mais pour créer une sorte de distance. En tout cas, c'est la personne qui m'a portée pendant 9 mois. Je ne sais pas si cette personne m'a gardée sur elle, tu sais, faire le pot à pot à la naissance. Je ne sais pas si ça existait. Je ne sais pas au bout de combien de temps elle m'a abandonnée, etc. C'était pas la question. La question, c'est sur le retour.
Est-ce que tu as toujours connu...
Est-ce que j'ai toujours connu, oui, donc, non.
Dans ta... Mais connu dans le sens... est-ce que tes parents adoptants... Mmh. Ils ne pouvaient pas cacher que tu n'étais pas leur enfant biologique du fait de la différence, enfin la couleur de peau.
Ouais.
Voilà. Mais est-ce que ils ont pris le soin de te parler de ton pays d'origine dès le début? Donc c'est dans ce sens-là. Est-ce que tu as toujours connu dans le sens, est-ce qu'on t'en a parlé? Est-ce que c'était inclus dans ton évolution, enfin dans l'éducation en tout cas, d'accepter d'où tu...
Non, je pense que mes parents ont été assez livrés à eux-mêmes, tu vois, il n'y avait pas beaucoup d'accompagnement dans les années 80, début 90, d'accompagner les personnes adoptantes. Peut-être se dire, tiens, il faudrait entourer la personne adoptée par d'autres personnes noires, déjà. Donc non, mes parents n'ont pas, si tu veux, je n'ai pas senti qu'ils avaient travaillé à mettre du soin pour me raconter, peut-être, je ne sais pas, l'histoire de Djibouti, l'histoire de l'Éthiopie... J'ai senti que je devais faire ce travail seule, en fait. Déjà parce que j'avais peur de les déranger avec mes questions. Mais c'est pas vrai, c'est pas les déranger. J'avais peur de perdre leur amour, en fait. J'avais peur qu'ils se disent « Ah, mais ça y est, elle va s'autonomiser. » Et puis, enfin voilà, c'était un moment de sursis comme ça. Enfin, ça dure un temps, en fait, l'adoption. Si ça se trouve, ça dure que 18 ans. Enfin, j'avais la peur aussi qu'on me renvoie. Donc, la peur du deuxième abandon. Et donc, je pense que mes parents ont tendu des perches, mais de façon implicite. Par exemple, je me souviens d'une fois, ma mère m'a proposé de regarder Secret et mensonge, le film de Spike Lee. C'est l'histoire vraiment d'une adoption, où le trajet d'une femme qui retrouve sa mère adoptive, sa mère biologique. Et moi, je faisais quand même mine de ne pas avoir bien compris ce qui se passait.
C'est quoi le lien? Pourquoi tu...
Je voulais pas me confronter à cette histoire. Puis il est sorti, je crois, en 92. Enfin, je sais pas, j'avais 12 ans, 10, 11 ans, quoi. Enfin, et je ne voulais pas. Donc, j'ai développé comme ça une sorte de déni conscient. Donc, c'est pour ne pas faire une réponse, tu sais, très binaire, de l'ordre de... Ah, mes parents n'ont vraiment pas donné accès à mes papiers ou à l'histoire de l'Afrique de l'Est. Ou... Non, ils ont donné quelques petites infos, mais moi, je n'ai... On le fait à deux, tu vois, enfin, ou à trois en l'occurrence. Enfin, je n'ai pas aussi été demandeuse parce que j'avais peur de ce que j'allais découvrir. Je voulais aussi garder ma place en Europe. Et donc, je ne voulais pas... Souvent, on m'a dit, mais attends, mais même à 16 ans, je me souviens très bien, j'étais en train de faire un baby-foot avec un mec. Il me dit, mais franchement, moi, si j'avais été adoptée, je poserais des questions, je serais retournée en Afrique et tout. Je dis, mais en fait,
tu ne
sais pas ce que je vis. Donc, moi, j'avais ce besoin constant d'être rassurée sur ma légitimité, sur ma présence ici, en fait. J'ai tellement dealé avec une sensation d'opportunisme, d'usurpation, et en même temps le sentiment d'avoir trahi les miens à Djibouti, en fait. Mais je ne savais pas qui elles étaient à ce moment-là. Et depuis là, je les ai rencontrées. au sens où quand je dis les miens, c'est j'ai rencontré des personnes qui vivent à Djibouti et enfin, c'est des sœurs et des frères de cœur, tu vois. Et donc non, je ne connaissais pas et aujourd'hui je ne peux pas dire que je connais Djibouti. Je peux te dire que j'en connais une partie parce que j'y suis allée et je peux dire que je connais une partie de l'Éthiopie qui est vraiment minime. Tu vois, j'en suis pas encore à. Ça dépend des caractères aussi, tu vois. Mais moi, je suis pas à. Je ne voulais pas apprendre par les livres. Je voulais apprendre par le corps. Je voulais faire l'expérience vivante et corporelle, sensible, de ce rapport à cette terre natale et sentir ce que ça me fait quoi, d'être là-bas. Et respirer l'air, en fait. Je peux te parler des sensations, je peux te parler des odeurs, je peux te parler d'un grand moment de joie et de grâce que j'ai eu là-bas. Peut-être tout à l'heure, je ne sais pas si c'est le moment maintenant, mais je voulais expériencer vraiment, mettre mon corps dans ce territoire, en fait. Et évidemment, ça, j'ai rencontré des problématiques insoupçonnées.
Et ce qui est hyper intéressant, c'est que je m'y retrouve très très fort dans les mots que tu utilises. Tu avais 2 mois, moi j'avais 7 ans. Et ce qui est assez intéressant, c'est que l'endroit de l'arrachement et du déracinement de ta terre natale, c'est pas une question d'âge, parce qu'avant d'avoir 2 mois, tu as vécu, tu as habité un corps qui avait une histoire avec cette terre-là, et que ton corps, même à 2 mois, est habité, enfin, quoi qu'il en soit. Et que du coup, c'est pas plus facile pour un enfant de 2 mois ou de 6 mois ou qu'un enfant de 7 jours. De 7 ans. Je veux dire, un enfant de 7 ans a une mémoire, une construction avec. Enfin, beaucoup plus développée parce qu'il a vécu plus longtemps. Mais que dans tous les cas, le dénominateur commun, c'est l'arrachement et le déracinement, quoi qu'il en soit, l'âge. Et c'est tout ce que j'entends à chaque fois. Enfin, tous ces mots me percutent, résonnent. Enfin, la peur d'être renvoyé, la peur d'être abandonné, la peur du vide, la solitude. Enfin. Tout ça, c'est assez troublant que de plus en plus qu'aujourd'hui je rencontre des personnes adoptées sur mon chemin, de plus en plus qu'on a exactement le même vocabulaire, quel que soit ton pays d'origine, quel que soit le milieu social dans lequel tu as été adoptée. Enfin, et ça, je trouve que c'est assez troublant de plus en plus. Enfin, ça me trouble très très fort parce que. Enfin, j'en avais jamais rencontré avant des adoptés par peur, hein, justement, de me reconnaître dans quelque chose que je fuis. Mais que, donc là, en peu de temps, mais c'est à la fois, en fait, tu te dis, ah ouais, il y a plein de gens qui me ressemblent, finalement, par cette histoire, par ce billet-là, quoi.
Je crois qu'il y a aussi un autre dénominateur, c'est le manque, c'est le vide, c'est le... J'ai l'impression que la façon dont j'ai connu Djibouti, c'est d'abord par le manque de mots, de définition des sensations déjà, du rapport à ce pays, et puis de ne pas savoir. Il y a une partie de toi qui est ailleurs en même temps que tu es là.
Par exemple, dans mon cas, et tu réponds par rapport à ça, dans mon cas, je sais que j'ai une identité que toute ma vie, jusqu'à aujourd'hui, j'ai essayé de gommer, d'effacer, de nier pour pouvoir être dans une intégration totale de l'autre identité imposée. Donc ça veut dire, dès que je suis arrivée, j'étais blanche. Parce que l'extérieur me renvoyait que ce que j'étais, ben, c'était ailleurs. Et pour pouvoir survivre... il fallait que je sois comme les autres. Du coup, il y a toujours cette part en moi qui, même si je me regardais dans le miroir et que je disais que j'étais blanche, je savais que j'étais noire et je savais que j'avais une identité que j'essayais absolument de gommer pour pouvoir pleinement être là. Et que du coup, il y a ce truc où ça existe, mais tu luttes toute ta vie avec un mensonge qui est « Non, non, ça, ça n'existe pas. » Du coup, aujourd'hui, dire, mais je peux concrètement le dire, c'est que c'est un mensonge consenti, en fait. C'est un mensonge consenti, enfin, pas consenti, mais je veux dire, non, mais accepté par tout le monde. Et c'est ça qui est hyper violent. C'est que c'est acté. Et que c'est acté par tout le monde que c'est un mensonge parce que bah, le système aussi t'encourage à un peu effacer cette identité de par toutes les violences qui existent quand on a ce corps-là. Et donc je comprends totalement par rapport à ça ce que tu dis. Et que du coup, j'avais une question très très concrète. Moi, ça fait peut-être depuis que j'ai commencé un peu ce processus identitaire que je sais où ça se trouve. Le Burundi sur une carte. Mais. Enfin, je sais pas. Parce que je crois que le Burundi n'existait pas, ou même l'Afrique tout court n'existait pas. Parce que si ça existe, ben, j'ai toute la merde en face de moi. Enfin, tout ce que cette identité représente et existe, en fait.
Oui. Est-ce que tu peux préciser ta question ?
Ben, ce que je veux dire, c'est que le manque que tu avais par rapport à ton pays d'origine, est-ce que tu l'as toujours su que ce pays ou ces racines-là existaient et que du coup, ils t'ont toujours habité ? Enfin, est-ce que ce pays d'origine t'a toujours habité ? Et que donc le manque s'est fait de plus en plus ressentir au point peut-être, je sais pas, de faire un trajet. Comme moi, c'est juste maintenant que ça commence à m'habiter. C'est juste, c'est ça ma question. Est-ce que oui. Tes racines t'ont toujours habité et que tu t'es dit, moi ça n'existait pas et c'est pour ça que maintenant je regarde sur une carte et que je dis, ah, ça existe, le Burundi existe vraiment, Kirimba existe vraiment, des Burundais, des Burundaises, il y en a. Donc, ça ne m'a pas habité. Parce que j'étais occidentale et blanche. Et c'est, enfin, que ça, pas l'autre.
Oui, oui. Ça, je dirais que ça m'a habité d'abord de façon fantasmée. Donc, déformée. C'est ce que je disais tout à l'heure sur le regard blanc, tu vois. C'était d'abord une approche sur l'Afrique de façon globale, tu vois. Ça aussi, c'est très
bien. De toute façon, c'est un pays, non ?
Et donc, pas du tout ciblé sur Djibouti. C'était ça, effectivement. Et puis ensuite. Ça m'a. Oui, d'abord habité de cette façon-là, donc de façon fantasmée, déformée. Puis. Peut-être vers 16 ans, quand je deviens un peu consciente de ce qui se passe, quand j'active le déni, peut-être, à ce moment-là, je me dis, c'est parce que je sors du mensonge que j'ai entretenu. Je trouve ça très intéressant que tu parles de la notion de mensonge. Parce que justement, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, je ne tolère plus aucun mensonge. J'ai la sensation que je ne peux que relationner avec des personnes qui sont dans une authenticité, dans une véracité, sincérité, parce que j'ai l'impression d'avoir dealé toute ma vie avec des informations qui sont peut-être fausses, en fait, sur lesquelles je ne sais pas, je ne peux pas m'appuyer, en fait. J'ai l'impression que je suis constamment sur un petit trampoline, qui, tu vois. Et donc... si on me ment, ça me fait complètement vriller, vaciller, parce que mon équilibre est déjà précaire, quoi. Et donc, voilà, c'est très intéressant que tu parles du mensonge, sur toutes les questions d'imposture, comme ça, et de manque de légitimité, dont je parlais tout à l'heure par rapport à la place. Et voilà, à 16 ans, quelque part, je décide d'être dans un déni conscient, de sortir de mensonge, de me dire « Ok, cette histoire est trop lourde. » à porter, parce que donc Oui, peut-être contrairement à toi. Enfin, moi, je sentais quoi, que quelque chose d'autre m'habitait, que je me sentais différente de mes amis, de... Je voulais être dans la norme. Hein, moi aussi, j'étais complètement dans l'assimilation blanche, intégration parfaite. Puis en plus, on te fait croire comme tu nais presque dans la famille quand tu arrives à 2 mois, en fait. Tu crois que tu es née là. Enfin, tu sais que ce n'est pas vrai. Mais ça te donne la sensation d'avoir toujours existé avec les autres présents. Les autres, c'est les autres membres de ta famille. Donc, tu as presque l'impression que tu es née de ta mère adoptive. Et en même temps, tu vois, c'est ce truc de « en même temps ».
Mais oui.
Ça coexiste complètement. Le fantasme d'avoir eu envie de naître là. Et puis de l'autre côté, se dire que non, ça n'est pas la réalité. Donc oui, à 16 ans, je construis ce regard où je me dis non, mais en fait, moi, là, ma priorité, c'est pas du tout regarder mon histoire d'adoption. Hein. Ma priorité, c'est qu'est-ce que je veux faire comme étude, j'ai envie d'être amoureuse, j'ai envie de m'éclater avec mes copines. Enfin, c'est je vais faire comme si ça n'existe pas. Et puis, je veux vivre comme les Blancs et comme les Blanches, parce qu'en fait, je suis presque blanche.
Oui.
C'est vraiment se convaincre, tu vois. Et après, donc c'est d'autant plus douloureux, parce que tu fais un travail de renversement quand tu... Et ça vient beaucoup plus tard, hein, c'est après les études universitaires. C'est puisque, à mon époque, les universités n'étaient pas du tout dans les questions décoloniales ou raciales, ou on n'en était pas là. Donc, j'ai fait tout un parcours scolaire dans l'absence du traitement de ma condition noire au sein de... Et c'est pour ça qu'on ne sait pas parler au conservatoire, qu'on souffre. Hein, c'est que ça n'était pas présent. C'est que les institutions ne prenaient pas, à cette époque-là, leur responsabilité et de se dire, OK, qu'est-ce que ça veut dire déjà d'avoir dans cette promo-là une seule personne. Okay. Est-ce qu'on va traiter ça, les récits, etc., tout ce qu'on connaît très bien toutes les deux. C'est après ça que j'ai dû me construire ma propre éducation, vraiment, ma propre culture des auteurs et des autrices noires. Rencontrer des activistes, rencontrer donc d'autres corps, vraiment rencontrer d'autres pensées, et penseurs et penseuses. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, OK, il faut opérer un renversement total. Et évidemment, c'est très difficile de se dire, je me suis construite de cette façon-là, dans un regard erroné sur l'Afrique, pendant, je sais pas, moi, 28 ans. Et maintenant, j'ai un besoin criant. En fait, c'est un cri, c'est vraiment corporel, c'est physique, c'est une vibration qui te dit « ça ne va pas, tu vas exploser », c'est comme une cocotte minute où, en fait, ce mensonge ne tient plus la route, tu ne peux plus y survivre. Tu as, moi, quand je dis « tu », excuse-moi, je vais dire « je ne pouvais plus accepter cette réalité-là, en fait ». Donc ça part, oui, d'une santé mentale fragile, ça part d'une insécurité constante, et de se dire, mais j'ai besoin de vérité, j'ai besoin d'être sur le sol, en fait, enfin, de pas être comme ça, tiraillée, pour pouvoir avancer. Donc ça a toujours été là, cette méconnaissance, en fait, c'est ça, la méconnaissance, l'ignorance du pays, du territoire, a toujours été là. Et puis, c'est à un moment donné, c'est j'ai envie de savoir, en fait. J'ai envie de savoir, mais par mes propres yeux, par mon propre corps.
Ouais, bah, ça me touche beaucoup dans le sens que... à un moment donné, on devient comme... tu sens que, en fait, si tu fais pas ça, tu vas crever, en fait. Enfin, c'est une bombe à retardement. Et que, enfin, au moment où on s'est vraiment... on a pris le temps de se rencontrer, de discuter. Ça a mis longtemps, ça a mis des heures. Et puis c'est aussi qu'on se rendait compte que nos histoires étaient avec un parcours différent, mais avec toujours ce dénominateur commun, qui est l'adoption. Mais que moi, ce qui m'a aussi fort aidée, en fait, dans ma conviction de dire « Conso, vas-y, c'est aussi de te rencontrer qui était à un autre endroit aussi que moi. Et que mon chemin était pas trop le même que toi, parce que moi, je devais aussi régler des traumatismes liés à mon adoption aussi, autres qui n'étaient pas les mêmes que les tiens, forcément. Mais que du coup, ouais, ce truc, ça me parle beaucoup quand tu dis ce besoin de dire, en fait, j'en ai marre, il faut plus que je sois dans ce mensonge et que tout le monde entende et voit que ça suffit.
En fait, c'est vital.
C'est vital.
En fait, ça rayonne sur tous les autres champs de ta vie, en fait. C'est transversal. Enfin, à un moment donné, si ton cœur, ton centre, il est plus en mesure de respirer,
ouais,
t'es en asphyxie totale, eh bien, tous les champs d'action, quoi, et donc c'est toutes les sphères, quoi, familiale, amoureuse, professionnelle, vacille, quoi. Et donc... Et aussi, ça demande beaucoup de courage, en fait. Il y a ça, je voudrais revenir là-dessus parce que je crois que je n'étais pas en mesure, je ne me sentais pas suffisamment en sécurité avant mes 30 ans pour retourner, en fait. Je crois que j'avais besoin, alors c'était certainement construit et tout, mais en fait, je crois qu'il n'y a vraiment pas d'âge. Et en plus, ce n'est pas une injonction. Moi, je vois ma sœur, elle est aussi adoptée. Et elle, jamais de la vie, elle ne veut pour le moment, à 42 ans, elle ne voudra retourner en Haïti. Donc ça n'est pas une injonction, ce retour. Et déjà aussi, j'aimerais qu'on parle de ce mot, retour. Mmh. Et tout est possible. Mais moi, j'avais besoin de me sentir suffisamment aimée pour prendre le risque, en fait. C'est ça. Prendre le risque de partir à la rencontre de ce que je ne sais pas, de ce qui pourtant a été fondamental pour moi, au sens les fondations, quoi, de la raison de mon être, de ma présence sur Terre, en fait. Mm-hmm. C'est là-bas que je suis née. Et en plus, je suis partie seule. Je n'ai rien à foutre, je vais faire toute seule. Et en fait, c'est parce qu'aussi j'avais peur de ce que j'allais rencontrer et de comment j'allais réagir. À la fois, je me disais, non, mais je veux que cette expérience soit la mienne, propre. Je ne veux pas me soucier des problématiques que les personnes blanches vont rencontrer là-bas, etc. Je veux être dans mon expérience. Ça m'a permis de rencontrer vraiment les personnes sur place. Tu parlais du lien, juste avant, dans ta question, dans ce qui fait lien aussi entre nous. Je pense qu'effectivement, c'est le processus, c'est le trajet aussi, quoi. La rencontre, comment on va à la rencontre de nous-mêmes. Ça, c'est hyper commun entre nos deux histoires. Et ce qui est d'autant plus riche, c'est qu'on partage ce processus-là, toi et moi. C'est-à-dire que je pense qu'on trouve de la puissance dans le fait d'échanger, enfin, la distance qu'il y avait au conservatoire entre nous, mais aussi après, c'est vrai que ça a pris du temps qu'on puisse se parler aussi calmement. Enfin, calmement.
Non, mais il fallait que chacune prenne aussi le temps de dire « je dois me rencontrer moi » pour que je puisse aussi me définir avec toi.
Enfin, exactement. Mais c'est ça.
Créer du lien, en fait.
Oui, et puis je crois que... Moi, j'ai très, très envie d'être honnête là-dessus aussi. Il y avait beaucoup de... Tu sais, avant que j'échange avec des femmes noires, moi, je les enviais, je les trouvais admirables, je les trouvais trop belles, et je me disais, mais moi, je suis pas une vraie noire, de un, parce que je suis pas tout à fait noire, et puis je suis pas légitime, tu vois, déjà, voilà. Mais quoi? Et en fait, le problème, c'était même pas ça, c'était même pas... Mais moi, je viens pas du Congo, parce que du coup, quand t'es en Belgique, en fait, t'as l'impression qu'il y a une seule diaspora qui compte dans les Noirs. Et donc, alors, en plus, je suis pas au bon endroit. Donc, ok, laisse tomber, Afrique de l'Est, n'importe quoi. Et en plus, bah, moi, j'ai grandi avec des Blancs. Donc, je n'ai aucune référence... aucune représentation de personnes noires dans ma famille, tout ça. Donc, quand je te le dis au présent, c'est assez fou parce que, je l'ai dit tout à l'heure, il y avait quand même ma sœur. Mais, donc, ce qui nous a rapprochés, je pense que finalement, c'est beaucoup plus notre adoption. Alors évidemment, le fait d'être noire fait partie de notre adoption, en l'occurrence, c'est toutes les deux. Mais ouais, j'avais peur de rencontrer des femmes noires. Au début, c'était ça. J'avais peur. Je me disais, elles vont me trouver trop nulle en fait, parce que je connais rien à rien. Et donc, aussi, ça m'a challengée pour, enfin, ça m'a boostée pour me faire mon éducation féministe décoloniale et faire mes propres lectures et pouvoir me dire, ok, on va avoir des référents communs. Et en fait, vraiment, moi, la littérature m'a sauvée. Et je pense que c'est... J'ai appris par la littérature ce que c'était sincèrement la sororité, ou en tout cas d'avoir en partage cette expérience de la condition noire, qui m'a permis ensuite de pouvoir aller vers toi ou vers d'autres, tu vois. Me dire, ah oui, mais en fait, elle vit la même chose que moi. Si je peux sentir ce que cette autrice, en parlant d'Audrey Lorde, en parlant de Belle Hooksy, je sens la même chose qu'elle, je ne les connais pas. Donc peut-être que Conso ressent la même chose que moi, peut-être, enfin... Mmh. Et donc oui, moi, je suis allée chercher de l'expérience commune, d'abord. Et puis après, je me suis dit, ah mais c'est hyper fort de voir qu'il y a aussi une variation de... Bah, en fait, malheureusement, le mot qui me vient, c'est aussi violence, quoi. Parce que c'est quand même ça. C'est qu'on... On fait face à des violences qui sont différentes, mais qui nous parlent, et donc ça fait qu'aussi on peut écouter vraiment, enfin, et être en soutien vraiment.
Ce qui m'intéresse aussi, c'est les billets, les différents billets qu'on a utilisés aussi pour en être là le 7 décembre 2022 et en discuter. C'est toi, c'est par les livres, moi, c'est par le théâtre. J'ai rencontré le théâtre, en tout cas en apprenant le français. Et donc j'ai commencé très tôt, hein, dès mes 8 ans, du coup, la diction, orthophonie, et vers 9-10 ans, le théâtre. Et c'est à ce moment-là où je me disais, ça sera à travers ça, en fait, que je me réparerai un jour. Et tu dis ça avec des mots d'enfant, ou même tu sais pas le nommer comme ça, mais c'était quelque chose qui m'habitait. Et que j'en ai fait tout le temps, et puis après j'ai fait le conservatoire, et que pour moi il y avait une soif de faire ce métier, parce que je sentais que jouer d'autres rôles, c'était finalement jouer d'autres rôles, un autre rôle que celui que je jouais tout le temps dans ma vie. Être celle qu'on veut que je sois. Et que du coup, c'était dans la continuité de la personnalité que je m'étais construite aussi, en tant que femme blanche... habitant à Moucron, enfin voilà. Et du coup, il y avait comme ça quelque chose de pas trop compliqué pour moi de jouer des rôles, parce que je le faisais depuis tout le temps. Et que c'est après, c'est à travers un autre spectacle vraiment documentaire, que là, je me suis dit, mais... Ah ouais, mais peut-être que je peux raconter ça comme ça. Et puis, c'est en allant travailler à la Bellone, par une carte blanche, sur les ports, que je me suis dit, ah bah tiens, consolate, peut-être que c'est le moment. Et que donc, moi, je n'ai pas eu accès à la culture, je n'ai pas eu accès aux livres, j'ai eu accès à du jeu, à de l'art vivant qui me disait que je pouvais être plein d'autres personnes, et du coup, moi, je pouvais être aussi moi. Et que donc, ce trajet qui est différent, en tout cas du tien, que moi, c'était plus sortir de... Enfin, de par mon histoire, sortir de la survie pour pouvoir vivre. Et ça, c'est tout le processus que, avec mon histoire d'enfant de 7 ans qui a vécu la guerre, qui a vécu des massacres, et qui voit la mort et qui est habité par la mort, c'est comment aussi accepter cette histoire-là, ces 7 années d'un Burundi, pour tendre vers une vie, en fait, pour pouvoir sortir ça et mettre ça à côté. C'est comme toute histoire, on n'est pas obligé d'avoir vécu ce que j'ai vécu pour pouvoir faire ce trajet. Enfin, c'est dire, je vis une violence, comment je la regarde et comment je la regarde pour pouvoir vivre avec, et je la mets à côté de moi. Et c'est tout l'endroit de la réparation. L'endroit de la réparation, c'est ne plus se laisser bouffer par ce qui nous bouffe, mais mettre ça à côté de nous et dire, ok, ça existe. Et, Et que moi, ça m'a aussi fait du bien de rencontrer des témoignages, des discours comme le tien qui ne sont pas forcément au même endroit que moi, parce qu'on n'a pas la même histoire, toi et moi. Mais que dire, ah oui, en fait, je fais partie aussi de ça. Et en fait, on peut aussi s'aider. Enfin, voilà. Pour revenir par rapport à la sécurité, je crois que c'est très très important pour pouvoir continuer de pouvoir sentir une sécurité. Moi, j'ai pu le faire, entamer ça, parce que j'ai senti une sécurité émotionnelle, un cadre sécurisant, d'être entourée, de faire famille avec les personnes qui aussi peuvent pas comprendre, mais qui peuvent me soutenir. Parce que comprendre, c'est compliqué quand tu vis pas ce que la personne a pu vivre, mais essayer de soutenir et pas remettre en question. Ouais, ça me parle beaucoup parce que j'avais besoin aussi de ça, de sentir ce cadre de sécurité pour pouvoir le faire.
En fait, ça me ferait très plaisir qu'on aille manger dans un resto éthiopien, toi et moi. J'aimerais beaucoup t'inviter et te faire découvrir cette nourriture. Et c'est très particulier pour moi l'expérience d'aller dans un resto éthiopien parce que je suis reçue vraiment pour des Éthiopiens, je suis éthiopienne. C'est cette voix. Et donc je suis. Oui, en fait, je ne suis pas d'Idjiboutienne, encore une fois, je suis juste née là-bas. Allez, je raconte une anecdote. Quand je suis arrivée à Djibouti la première fois, les personnes qui m'ont accueillie, la famille dans laquelle j'ai vraiment partagé ce que je vivais à ce moment-là, m'a conviée à un repas le midi et on allait à l'extérieur du centre-ville, on allait dans des bidonvilles, là où vivait la famille de Mouna et les hommes mangeaient dans une autre pièce. Et c'était mon premier repas en communauté. C'était d'une intensité incroyable. Je sortais de l'avion, en fait. Enfin, c'était vraiment le jour même. Et en fait, toutes ces femmes autour du plateau qu'on partageait, parce que c'est un grand plateau qu'on met au centre, et on prend... tu goûteras si on va au kokob ou chez Otukul avec la injera. Là, ça, c'est vraiment le plat typique éthiopien. Mais bon, là-bas, j'étais à Djibouti, c'était pas un plat éthiopien, pardon, mais on mangeait quand même avec les doigts. Le plateau était au centre, et puis je regardais toutes ces femmes, et parce que déjà dans l'avion, oh là là là, je m'emballe, là, c'était pas des Noirs, c'était vraiment des Djiboutiens, des Éthiopiens, et c'était pour la première fois de ma vie que je voyais que je ressemblais à d'autres personnes. Et ça, c'est très particulier de voir quelqu'un qui te ressemble. Et dont les traits, voilà, sont partagés et tout. Et donc, lors de ce repas, je vois les filles et je me dis, bah oui, on se ressemble, mais il y a quand même une nana à laquelle je ressemble beaucoup plus que toutes les autres, quoi. Et tout, elle me regardait, elle me disait, pourquoi tu la regardes comme ça? Je sais pas, j'ai l'impression qu'on se ressemble. Ah bah oui, ma chérie, c'est parce que c'est la seule éthiopienne autour du groupe, là. Et toi, t'es éthiopienne aussi. Ça, ah. Et tu vois, c'est comme, de la même manière que j'arrive en Belgique, je me dis, et que je rencontre les activistes et tout, ils sont tous belgo-congolais, et je suis pas belgo-congolais, je me dis, je suis pas encore au bon endroit, et j'arrive à Djibouti, on m'a dit, tu n'es pas djiboutienne. Voilà, et donc c'est pour ça que finalement je porte beaucoup plus, ou en tout cas j'ai beaucoup d'objets, et là en l'occurrence des tissus qui sont liés à l'Éthiopie, parce que c'est mon faciès, parce qu'en fait ce sont mes origines, parce que je pense que ça c'est peut-être la seule chose vraie sur mon procès verbal, c'est sur la déclaration, c'est voilà, ma mère était ressortissante éthiopienne. Et quand je vais à Anvers, quand je vais donc dans ces restos éthiopiens, je dis Anvers parce qu'en fait, Anvers, il y a énormément de communautés éthiopiennes. On m'identifie comme une éthiopienne. Je vois des gens à table, on se salue. Et donc, voilà, lors de ma première création, là, jusque dans nos lits, J'ai fait faire des costumes à partir de tissus éthiopiens. Parce que je suis déjà tellement occidentale, donc je ne voulais pas être déguisée, mais je voulais qu'il y ait ce partage de... Voilà, c'est vraiment afro-PM, quoi.
En fait, ça me touche trop, en fait, de t'entendre parler de ce voyage hein, que tu as fait, parce que je sens que je suis tellement un peu stressée, même beaucoup, je suis terrorisée par ce retour, que de t'entendre, même si on dit, mais en fait, il faut... Tu ne sais pas ce qui va t'arriver et tout ça, mais ça me fait quand même du bien de rencontrer... de te rencontrer et que tu me racontes aussi ton expérience, parce que c'est comme ça aussi que moi, je me nourris. Me dire, ben, tu l'as fait avant moi, qu'est-ce que tu peux aussi me raconter par rapport à ça? Et que partager, ça me réconforte. Donc du coup, est-ce que c'est depuis le voyage que tu as toutes ces petits objets, enfin tous ces petits objets, que ton rapport en tout cas à ce pays s'est transformé?
Oui. Oui, oui,
et,
oui.
Et comment tu définirais cette transformation? La sensation, est-ce que ça te fait...
Il y a plusieurs choses. Il y a vraiment une sensation très désagréable. Parce que quand j'étais sur place, je me sentais pas à ma place. Je me sentais vraiment comme une Européenne blanche. Et c'était très douloureux à sentir parce que je me disais, mais alors c'est où, quoi, en fait? Où est-ce que je vais me sentir bien? Donc c'était très utopique de croire que j'allais avoir une sorte de révélation sur place. Je pense aussi que j'avais mis en place des mécanismes de défense, de protection comme ça pour... bien montrer qu'en fait aussi, bah, non mais moi je suis quand même une Européenne, tu vois, c'est très contradictoire. Dans la rue, j'avais des dreads à l'époque, hein, tu sais, mes longs dreads. Donc on me prenait pour une Américaine, on me parlait en anglais, à Djibouti on parle français. On me parlait en anglais et on voyait très bien que j'étais touriste, quoi. Alors que moi, je m'étais toujours dit, je n'irai jamais en Afrique pour faire du tourisme. Genre, je n'avais jamais mis le pied en Afrique avant d'aller à Djibouti. J'avais mis un point d'honneur à me dire, c'est le seul endroit où je ne vais pas aller me faire bronzer à Djerba, quoi, en fait. Déjà, je déteste ce mode de voyage. Mais c'était important pour moi que ce soit d'abord de reconnecter avec cette terre à l'endroit où elle m'avait porté, etc. Et donc, sur place, ce sentiment très, 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 très désagréable de ne pas être au bon endroit et de ne pas être légitime aussi de sentir ça. Sentir que quelque part, je portais un jugement. Oui, j'ai porté un jugement que je croyais à l'époque féministe sur un mode de vie d'une personne. Et évidemment, ça a changé aujourd'hui. Je trouvais que c'était une personne qui était entretenue par son mari. Et je me disais, mais fais quelque chose toi, en fait. Et c'était une vision encore très occidentale et très... civilisationnelle, tu vois, vraiment. Et donc ça, c'est hyper violent. Et donc je me suis vraiment retrouvée dans la position de la meuf raciste, en fait.
Oui, parce que c'était comme si que c'était aussi installer un système que tu connais, celui que tu connais, en fait.
Et qui m'oppresse, et qui, du coup, et le reproduire, exactement.
Exactement.
Et donc ça, c'est... Je pense qu'à ce moment-là, c'est de la défense, c'est un mécanisme pour me protéger, et j'en suis pas fière, et je te le raconte parce que je pense que c'est important que ça existe comme parole. Mais ouais, il y a ça. Il y a aussi être sur place. Et... En fait, moi, je ne veux pas te donner de conseils, je te partage juste ce que j'ai vécu, parce que de toute façon, ça va être, tellement autre chose. Enfin, c'était compliqué de faire cette expérience par rapport aux attentes aussi, tu vois. J'avais des attentes de voir qu'elles n'étaient pas comblées. Pardon, je me perds un peu, mais par rapport aussi au mépris de classe, tu vois, que je critique énormément ici en Belgique. Et j'ai rencontré des amis, des sœurs qui viennent vraiment d'une classe sociale basse, quoi. Et d'autres qui viennent d'une classe sociale assez élevée. Enfin, et donc j'observais ça. Et les relations entre elles. Et... je sais pas, il y a tellement d'histoires qui me viennent en même temps là, que j'arrive pas à savoir à quoi donner la priorité. Là, je pense à un militaire français, parce que Djibouti, c'est une grosse base militaire, mais vraiment pour toutes les flottes du monde en fait. Enfin, les États-Unis, l'Allemagne, le Japon, la Chine, enfin, bon, c'est assez impressionnant. Et là, donc, il y a un français, je pense qu'il se serait bien tapé une noire occidentale ce soir-là, tu vois. J'ai senti ça, donc je ne vais pas venir à l'hôtel avec moi. C'est qu'il en avait un peu marre de draguer des Djiboutiennes, quoi. J'ai senti, mais c'était dégueulasse, quoi.
Et là, c'est toute la fétichisation et tout l'exotisme aussi de ce que nos corps renvoient.
Oui, mais aussi à mes égards. Parce que tu vois, je sentais que c'était... Ce qui lui plaisait chez moi, c'était mon occidentalisation, quoi, tu vois. Genre, ça va peut-être lui rappeler ce qui lui manque et tout. Et j'étais là, waouh! Jamais, jamais je fais ça, en fait. Et... purée, j'ai perdu le fil, en fait.
Non, mais il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de fil. On n'explique pas. Tu disais juste que tu racontes des expériences que tu as vécues là-bas, mais que tu ne donnes pas forcément de conseils parce que... Ben, notre rapport aussi est différent. Par exemple, moi, qu'est-ce qui fait que je suis... Enfin, que moi, je prépare autant comme ça ce voyage, c'est parce que ma terreur est très, très grande et que moi, mes attentes ne sont peut-être... Enfin, tu parlais d'attentes et tout ça, que tu as été déçue peut-être de ne pas assouvir assez tes attentes. Moi, à l'inverse, j'en ai pas forcément parce qu'à l'âge que j'ai été adoptée... C'est une mémoire sensorielle, c'est une mémoire aussi liée à une guerre. Et que du coup, moi, c'est ce qui est très très compliqué, le fait que j'ai besoin de rencontrer d'autres personnes avec ça. C'est juste que j'ai une terreur, je suis terrorisée d'y retourner. Là, j'ai interviewé une psy spécialisée dans la mémoire traumatique dans le cadre de cette préparation. Et elle me disait, mais moi, je ne peux pas te répondre à cette question. Enfin, elle disait, mais de quoi as-tu peur? Je tourne autour du pot. Et après, en fait, c'est de dire, mais j'ai peur de retrouver le Burundi qui est dans ma tête et qui me hante depuis toujours. Donc, mais c'est ça qui, moi, me fait peur. Et donc, l'attente que moi, j'ai, c'est juste de prendre l'avion à Zaventem, de décider de faire ce retour. Enfin, j'appelle retour parce que... on m'a obligée à être à Zaventem à un moment donné et que c'est pour ça aussi mon rapport aux aéroports, c'est assez compliqué, mais que là, je décide de repartir de Zaventem, prendre cet avion qui va m'emmener là-bas et sortir de l'avion. Et que donc, ma terreur, moi, c'est la mémoire de l'enfant de 7 ans. L'attente, c'est de me dire, je vais voir des couleurs, je vais avoir des odeurs. Et que donc, je ne peux pas avoir d'attente que de prendre cet avion. Ouais. Et que donc, je moi c'est de dans notre rencontre, c'est trouver un encouragement à un endroit, enfin tu vois, dans ce voyage. Mais que c'est vrai que la tente oui, c'est cette terre. Et le côté émotionnel aussi, de voir des gens qui me ressemblent, ça me touche beaucoup. Quand tu dis que voilà ton expérience de voir des gens qui te ressemblent, c'est important. Quand à chaque fois tu essaies de voir dans le miroir à qui je ressemble, ça, ces yeux là, cette bouche, à qui jamais dans ta vie tu vois des gens qui te ressemblent, t'es seul. En fait, c'est ça, c'est l'endroit de la solitude. Même quand tu n'as pas décidé d'explorer ton identité, ta quête identitaire, et quand tu décides de le faire aussi, c'est que t'es seul en fait. Cette solitude, elle est là tout le temps, dans quelles que soient les situations, sauf quand je décide de rencontrer des personnes ayant vécu un parcours similaire, tu vois. Et que donc, me dire, toi, tu as fait ce retour-là, ben, déjà ça me réconforte, tu l'as fait. Et c'est ça qui, moi, m'intéresse aussi dans notre échange aujourd'hui, tu vois. C'est de me dire, je rencontre quelqu'un qui l'a fait et qui me donne aussi ce courage-là. C'est concret, hein, tu vois.
Et tu sais, je ne regrette pas une seconde de l'avoir fait. Je ne regrette pas du tout. Et surtout, j'ai envie d'y retourner. Je me suis toujours dit que j'irai une deuxième fois au moins. Et elles m'attendent. Vraiment. C'est écrit.
C'est qui de temps elle en temps,
mais c'est mes amitiés sur place, quoi. C'est mes sœurs, quoi, qui m'ont accueillie. Ouais, ils m'ont dit tout le temps, mais on t'attend. Et je sais pas quand est-ce que je vais y retourner, mais je sais que c'est bientôt, quoi.
Ouais. Mais
je savais pas dit ça.
Non, mais surtout ce qui me touche et qui me donne aussi beaucoup de dans ce truc concret de préparation, c'est d'entendre aussi quelqu'un qui a été et qui dit je vais retourner. Donc ça me donne aussi du courage à me dire, ben en vrai, peut-être que moi aussi, en fait, après que j'ai fait ça, je me dirais ça, je ressentirais ça en tout cas.
Oui, parce que enfin quelque part aussi il y a cette position, parce que ce que j'abordais à demi-mot tout à l'heure, c'est cette histoire de sentiment de trahison encore, que j'ai l'impression de les trahir quand même, parce que je suis là, que je profite de ma vie, que je n'envoie pas d'argent, donc j'ai le privilège de pouvoir certainement y retourner, financier. Et c'est en fait de ça dont je voulais te parler tout à l'heure, c'est ce privilège du passeport français qui m'emmène partout. Voilà, je suis certes adoptée, mais j'ai des papiers, quoi, tu vois. Et qui sont pas forcément. Comment dire ? Non, mais c'est à deux endroits. Non, on va pas développer ça. Je vais dire. Ça fera l'objet d'une discussion.
Oui.
On boira un verre. Là, attends. Pardon, j'avais une idée, un truc, c'était clairvoyant sur ce deuxième voyage. J'ai une intime conviction que je vais y retourner. Et que ce sera vraiment dans moins de 10 ans, c'est certain, enfin c'est dans les 5 prochaines années, là c'est sûr. Je vais y retourner parce que en fait je veux aller au bout. En fait, au bout de ma quête, que pour le moment, j'ai tâtonné. Parce que dans ce premier voyage, j'avais une trouille terrible de rencontrer ma mère biologique, une trouille terrible de savoir, d'apprendre. Elle est vivante, elle est morte, c'était quoi son parcours et tout. Donc j'ai cherché, mais que, tu vois. Les personnes sur place, elles cherchaient plus que moi. Elles voulaient tout pour moi, que je retrouve ma mère biologique. C'est un truc genre, c'est pas possible, on va t'aider là, tu dois avoir ce centre-là dans ta vie, en fait, d'une générosité incroyable et de m'aider, en fait, de sentir ma détresse, mais de sentir que j'en étais incapable aussi, que je ne pouvais pas le faire seule, et qu'en fait, des jeunes de 18 ans m'ont pris dans leur badge en Éthiopie, donc c'est vélo moteur ou mobylette, tu vois, avec derrière, tu peux t'asseoir et tout, Et donc, avec ma pote que j'avais rencontrée sur place, elle me dit tu viens, ils vont t'emmener, on va partir en balade et on va faire le tour des commissariats, on va aller voir. Moi-même, ils m'ont emmenée dans un organe de presse. J'ai passé un appel à la radio. Alors, pas moi, parce que je ne parle pas. C'était en amharique. Mais par contre, c'était fabuleux, parce que ces jeunes de 18 ans, tu vois, ils ont passé leur journée à faire ça. Et donc, ils ont traduit. Donc, je parlais en français avec ma pote qui traduisait en somali à ses amis, et ses amis traduisaient en amharique au mec qui allait passer l'appel à la télé. Et donc, j'ai payé pour une semaine à la télé, à la radio, un message continu, quelque chose comme ça. Il se trouve que c'est mon adresse mail, enfin j'en ai changé depuis, donc en fait, puis bon voilà, j'ai jamais reçu de nouvelles, mais c'était une expérience de dingue pour dire que c'est les autres qui m'ont aidé à faire sur place ces démarches-là. Pourquoi je vais y retourner, c'est très clair, c'est sûr, c'est que je veux trouver des réponses. Donc je sais que cette année, je vais commencer à faire des démarches concrètes, de l'ordre de ADN, tu sais, le truc MyHeritage, là, et de savoir, voilà, c'est quoi toutes mes origines, etc. Enfin, j'en ai marre d'aller chez le coiffeur et qu'une nana me dise, tu te souviens, t'étais là, Conso, quand j'ai coupé mes cheveux, mes dreads, tu te souviens de ce qu'elle a dit quand j'avais la tête dans le bac et qu'elle dit, bah, les Arabes sont passés par là. Je sais pas. Je sais pas. Ah non, mais parce que là, tes cheveux, c'est du bouclé, c'est du frisé, c'est du crépu, c'est du. Il y a de tout. C'est pas clair. On sait pas, mais c'est pas clair. Et donc, j'ai envie de savoir maintenant. J'ai envie de savoir et j'ai envie de... Ça fait pas longtemps que je me dis, si ça se trouve, j'ai des demi-sœurs et demi-frères, en fait, sur cette terre. C'est possible. Des personnes qui sont nées aussi de ma mère biologique. Peut-être qu'elle est vivante ou morte. Et peut-être qu'elle... Peut-être qu'il y a d'autres gens qui sont de mon sang, en fait, quelque part. Alors, oui, j'ai grandi dans ce truc de... On s'en fout de savoir si tu partages... C'est pas le sang qui te lie aux autres. Bah, en fait, quand t'es adoptée, quand même, c'est toujours la question qui revient. Parce que c'est souvent la parole des non-adoptés qui disent... Mais faire famille, justement, c'est avec plein de gens, ça peut être avec ta marraine... Non. Moi, je sais que... C'est horrible ce que je dis. Mais j'ai toujours le sentiment que ma famille n'est pas ma famille, en fait. Que j'ai l'impression que je joue un rôle de... Et que j'ai toujours joué, hein, quand tu disais que c'était plus facile pour toi de jouer des rôles parce que tu jouais déjà un rôle dans la cellule familiale. Et c'est ça, ce n'est plus vivable, en fait. De tenir ce rôle-là, j'ai l'impression d'usurper quelque chose, de la même manière que maintenant, j'ai les mêmes droits que mes frères et sœurs adoptifs. Quand mes parents adoptifs vont décéder, je vais bénéficier des mêmes droits et tout. Et je me dis, mais c'est pas... J'ai pas le droit, en fait. Enfin, c'est pas... Ouais, et ça, je crois qu'on ne peut pas comprendre tant qu'on ne fait pas l'expérience de l'adoption, quoi. En fait, ce truc de... Et alors, l'autre jour, je me disais, ah, si ça se trouve, j'ai des frères et sœurs, et eux, ils ont reçu l'amour de ma mère, que elle ne m'a pas donné. Et j'étais là-dedans. Je me disais, waouh, je n'ai jamais pensé à ça en 34 ans. Et. Je vais avoir 36. C'était dingue, en fait. Enfin. Maintenant, j'ose écrire des trucs vrais, en fait. J'ose écrire des trucs qui sont d'une violence, mais c'est ce que je sens.
Oui, il faut que ça sorte.
Et en fait, ça sort, et enfin, ça sort, j'ai même pas besoin de. Choisir la virgule. Vraiment, c'est... En fait, il faut que ça s'écrive, quoi. Et du coup, c'est des questions qui sont fondamentales sur l'amour, en fait.
Mais est-ce que ce premier voyage, tu sens que c'est un plus dans ta reconstruction, dans ta réparation ?
Ouais, c'est une étape cruciale.
C'est une étape.
Et c'est pas une finalité, c'est vraiment... C'est un passage.
Oui, mais c'est
j'en ai eu besoin.
Quand je veux dire ça, c'est une étape qui te permet de toute manière de passer à un niveau supérieur.
Ouais, de conscience et d'acceptation de soi et de confiance dans mon rapport avec les autres. Et c'est comme s'il me manquait toujours une partie de moi. Toujours une comme si je n'y avais pas accès, quoi. Tu vois, j'ai pas les lunettes, je ne vois pas. Enfin, je ce n'est même pas palpable. Et c'est ça. Enfin, pendant longtemps, ça a été la zone adoption, c'est du vide, quoi. Mais c'est un vide qui prend tellement de place en moi, tellement énorme. Et parce que je savais pas quoi en faire aussi, et que maintenant, je veux le traiter, tu vois. J'accepte qu'il ait une place dans ma vie. J'accepte. En fait, c'est ma vie. Ce n'est pas une histoire de destin. C'est juste que ça a été mon trajet. Je veux l'embrasser. Pour ce que tu disais tout à l'heure, sortir de la survie, embrasser la joie, en fait. Pouvoir, à partir de ces réalités complexes, embrasser une vie, enfin, de la vitalité, tu vois. Et de créer du... Ne pas subir.
Et puis il y a toujours ce truc qu'on dit la vie est trop courte et tout. En fait, je me dis, j'ai 33 piges. Oui. En fait, à un moment donné, j'ai besoin de sortir de cette redevabilité, de cette injonction à être heureux et heureuse d'avoir une deuxième chance. Et que ça a des conséquences néfastes sur la construction psychologique, tout ce que tu veux, d'un manque de confiance, de toujours se sentir inférieur. Enfin, c'est ce que moi je ressens en tout cas. Et qu'aujourd'hui, à 33 ans, j'en ai marre en fait de ne pas avoir de confiance à me dire je parle pas bien la langue, j'ai pas la couleur qu'il faut, dans le bus je vais essayer de bien parler pour que on voit bien que je suis intégrée. C'est tous des mécanismes, et de dire aussi en fait moi je fais tout un travail de déconstruction pour ne plus être raciste, donc enfin, moi-même, en tant que femme noire, je suis raciste. Pourquoi ? Parce que j'ai grandi aussi dans un système raciste. Enfin, et qu'à un moment donné, c'est juste une question de nous laisser la parole pour dire aussi de dire l'adoption, c'est ça. Il n'y a pas que cette belle action, en fait. C'est de dire, il faut qu'on change si ça doit continuer à exister. C'est nous, adultes, adoptés, qui devons visibiliser aussi ces récits parce qu'on parle trop peu de l'autodestruction, des suicides, comme d'enfants adoptés, adultes, parce qu'on dit tout le temps enfants, mais ces enfants deviennent des adultes.
Ouais.
Et que nous devons faire ça, parce qu'on a le droit, en fait, de vivre et de ne pas subir, en fait.
Ouais, et je souscris à tout ce que tu viens de dire. Dans la mesure où, en fait, toutes les conséquences que tu viens de nommer sur la santé mentale, dépression, suicide ou tentative de suicide, ça, ce sont des conséquences d'une pratique coloniale, en fait. Donc, ça regarde tout le monde, en fait. Nous sommes toutes et tous concernés par des résidus, en fait, d'une époque qui a l'air d'être lointaine, alors qu'en fait, elle est encore active au présent. Et c'est juste quand tu parles de... Ça c'est le langage des organismes d'adoption et des adoptants en général, de parler des enfants adoptés, mais adopter, être adopté, c'est une condition à vie. Et donc, effectivement, là où tu dis, oui, nous, en tant qu'adultes, on doit, ou en tout cas... si on en a envie,
c'est notre...
de, oui. de s'emparer et de ces questions-là pour sensibiliser ou se rencontrer tout simplement, ou s'empowerer les uns les autres et tout. Mais je crois qu'il y a aussi un travail à faire de la part des personnes aussi non adoptées, de comprendre leur implication dans ces pratiques et surtout, toutes ces personnes qui travaillent dans la constellation d'adoption, quoi. Donc, c'est-à-dire les assistants sociaux,
les structures d'adoption.
Exactement. Voilà. Mais encore une fois, c'est à nous que ça arrive, en fait. Enfin, parce que tu parlais des conséquences, quoi, psychologiques. En fait, je trouve qu'on a un radar quand même entre personnes adoptées. Je sais pas si tu sens ça, toi, mais je... Ou des personnes qui ont vécu d'autres traumas d'abandon, tu vois. J'ai énormément d'amis qui ont perdu un ou deux de leurs parents, par exemple. Il y a un partage immédiat, en fait, de sensibilité, de... C'est inexplicable, mais parce que c'est avoir fait l'expérience de la perte. Et ça, c'est un truc qui est très aussi... Moi, par exemple, je ne sais pas si mes parents biologiques sont morts ou pas. Mais quelque part, toute ma vie, je fais l'expérience de ce deuil-là. De ne pas savoir et d'être... Enfin, jusqu'à maintenant, je veux dire, je suis quand même dans ce deuil de cette perte. C'est peut-être très compliqué à comprendre, mais en vrai, j'ai 4 parents dans un... Tu vois, enfin, il y a... Bon, tu vois, sur la déclaration d'abandon, il y a vraiment écrit que le mec s'est barré, quoi. Ça aussi, dans la construction de... Dans mon rapport aux hommes, en tant qu'hétérosexuel, tu vois, enfin, c'est... Bon, ça c'est autre chose, c'est un autre sujet, mais tout est lié.
Non, mais tout est lié, mais de toute façon, si se rapprocher de son pays d'origine, ça nous renvoie à d'où on vient, au père, à la mère biologique, et donc ça te rapproche encore plus de la matrice, en fait, c'est la matrice. Et qu'en tant qu'enfant, adulte, adopté, et quand on aura 80 piges ou 90 piges, on sera toujours des enfants qui avons perdu sans pouvoir faire le deuil, quoi que ce soit, d'un de nos parents ou des deux, quoi. Et que du coup, c'est pour ça que pour moi, c'est vraiment très important aussi que ce travail, ce processus identitaire et ce processus aussi que j'ai mis en place avant de retourner pour la première fois, c'était vraiment de me dire je vais mettre Capitoline et Joseph, parce que moi j'ai la chance de connaître leur prénom, j'ai la chance aussi de savoir que c'était des gens qui m'ont aimé, et ça c'est grand, et c'est beau, mais de me dire ils ont toujours été là, mais d'une manière pas consciente, mais dans la survie, parce qu'ils m'ont beaucoup aidé dans mon adoption, mais c'est de se dire aujourd'hui, c'est tout un travail qui les rend hommage, qui leur rend hommage, et leur rendre hommage, c'est aussi dire vous existez. Et que pour moi, c'est me dire, nous, on n'aura plus jamais la chance de pouvoir aussi être dans un rapport physique, mais comment aussi on peut, si on a envie en tout cas, de leur donner une place, mais quelle place? De toute façon, je crois que pour avancer, faut leur permettre une place. Enfin, moi, en tout cas, je leur laisse une place à côté de moi parce que je sens concrètement que c'est comme ça aussi que je peux retourner au Burundi et que je peux aussi avoir la force de faire ça. C'est parce que je suis habitée. Moi, je suis habitée par le Burundi, par mon pays natal, par des cauchemars de la guerre, mais je suis aussi habitée parce que mes morts, ben, je leur donne une place. Ils sont habités, ils m'habitent. Et qu'aujourd'hui, je peux avoir la force de mener ce combat, parce que, par un sourire, mais c'est un combat pour moi, de traverser ça, parce qu'il m'habite. Et que je crois que on devra traverser encore beaucoup de choses jusqu'à ce que ce vide, cette peur d'abandon, ça ne nous quittera pas. Il faut juste qu'on se dise, ben, on rencontre et on traverse avec des gens qui nous ressemblent et qui sont semblables et se dire dans cette sécurité émotionnelle, et cette sécurité, c'est aussi inclure des personnes qui ne remettent plus jamais en question ce qu'on a à l'intérieur et qui remettent en question quoi que ce soit, en fait. C'est juste ça. Et que pour moi, je rencontre beaucoup d'adoptés. Jamais j'aurais cru rencontrer autant. Mais ce qui est magnifique à chaque fois, c'est toutes les personnes sont hyper heureuses parce qu'en fait, je suis peut-être la première adoptée qu'ils rencontrent, qu'elles rencontrent. Et cet endroit d'isolement, c'est fini.
Oui.
C'est fini parce que tu ne l'as pas dit, mais tu es une grande artiste et une performeuse qui aussi, je crois que c'est vraiment très important de le souligner avant qu'on se quitte, qu'en tant qu'artiste et en tant que personne visibilisée, noirs qui travaillons aussi à mettre des lunettes, à donner des lunettes en tout cas, et à obliger les gens à mettre des lunettes sur ces sujets-là, c'est vraiment très très important. Et que toi, tout comme moi, on travaille à ça dans nos travaux, et que nous devons continuer. C'est dans la visibilité et dans la prise de parole que chaque étape sera bien aussi, que c'est important.
Oui, parce que ça rend les choses collectives.
C'est ça. Et pour moi, on est fiers de... Enfin, aujourd'hui, je me dis, oui, je suis en Belgique. C'est mon pays. Je suis beaucoup plus européenne et occidentale que burundaise ou africaine. Mais que comment... la position où je suis, c'est que je ne suis plus dans un déni de l'appartenance de l'autre moitié de moi, mais que je vais passer encore un temps à rencontrer ça. Mais que dire, je vis ici et que j'ai besoin que l'endroit où je vis, j'inclue les gens dans mes travaux pour qu'on se responsabilise et pour que la conscience collective existe, en fait. Parce que sinon, on ne va pas avancer. Et que moi, j'ai besoin d'avancer pour ma santé mentale et pour ne plus me sentir illégitime, en fait. Et pas légitime ici, quoi. Je suis chez moi. Est-ce que je peux te demander une dernière chose, je sais pas, parce que toi tu es retournée. Déjà tu voulais peut-être dire quelque chose sur le mot retour.
Ah oui, oui. Oui, en fait j'ai souvent dit que c'était plutôt un voyage ou un aller. Parce qu'en fait j'étais bébé quand je suis partie de Djibouti la première fois. Et surtout, c'est par l'action des autres que je suis partie. Et là, quand j'y suis allée en 2017, c'est de mon propre fait. C'est mon choix. Et donc, c'est en aller vers. Aller vers une culture, aller vers une terre natale, aller vers ce que je ne connais pas. Et donc, c'est un aller, c'est embrasser... Ça, j'ai jamais vraiment compris le carnet qui est ici, là, à côté, dans la bibliothèque d'Aimé Césaire, le retour au pays natal. Mais c'est, pour moi, c'est, dans ma condition d'adopter et dans cette histoire-là, précise, c'est rencontrer. Donc, c'est aller vers.
Merci. Et est-ce que... Moi, je sais que je connais des mots en kirundi. C'est impossible pour moi de les prononcer. Et parce qu'il y a aussi toute cette chose avec le langage, la langue arrachée, la langue imposée. Tu ne sais jamais quelle langue tu parles, finalement. Enfin, moi, je suis ici, en ce moment, cette remise en question. Mais c'est quoi ma langue, finalement? Et je me demandais si... en faisant ton aller, tu avais appris un mot dans ta langue, dans ta langue maternelle.
Oui, c'est le somali. C'est une des langues communes au territoire d'avant les colonisations, donc territoire éthiopien, Somali et Djibouti, et un peu en Érythrée aussi, je pense. Et donc la langue, c'est le somali, le français étant la langue coloniale. Et donc j'ai appris un mot qui est Marasantahai. Ça veut dire merci.